place à Nasser Aghenef.
Merci beaucoup. Je suis à la fois très intriguée et ravie d'être ici, parce que je découvre en même temps que j'entends des résonances familières, pour le dire comme ça. Donc c'est une expérience très intéressante pour moi, et donc je vous remercie de cette invitation, en fait, qui était à la fois inattendue et attendue, pour le dire comme ça. Même si je découvre de plus en plus. Alors, effectivement, j'avais proposé lors de ma conversation avec Myriam que je ferais retour, d'une certaine manière, sur les féministes et les garçons arabes. Et en vous écoutant, j'ai l'impression que le retour n'est pas si nécessaire que ça, et que c'est plutôt aller de l'avant qui serait le plus intéressant. Je n'ai pas tant de reprendre l'argument qui était développé dans le livre et essayer de le réactualiser. C'est pas tellement ça. En fait, ce qui m'intéresserait plutôt, c'est de voir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, ce livre a été écrit en 2004, publié en 2004, puis en 2006. Nous sommes 7 ans plus tard, donc il s'est passé bien des choses. Qu'est-ce qu'il reste à réfléchir, à penser, quelles sont les dimensions qui sont intéressantes à redéployer ou à déplier tout court, c'est-à-dire à ouvrir pour y réfléchir collectivement. Et c'est sans doute vers ça que je vais essayer de m'orienter. Alors, je n'ai pas préparé de texte. J'espère que je parlerai assez lentement pour que les traducteurs ne soient pas épuisés. Chouette, je reçois déjà des bises à distance. C'est très enthousiasmant. Donc, je vais essayer de tenir ce rythme et je vais en fait tracer des lignes comme ça. Hein. C'est-à-dire que je vais essayer d'ouvrir avec vous un certain nombre de perspectives. Je ne fermerai aucune d'elles et je ne prétends pas apporter des réponses, mais plutôt poser peut-être en prolongement des questions qui étaient présentes dans cette figure du garçon arabe et des féministes qui lui faisaient front ou qui, en tout cas... tentait de lui faire face. J'essayais de développer d'autres dimensions. Il y a d'abord une réflexion qui me vient à la suite des différentes interventions, c'est que il me semble que nous nous trouvons à un moment où sans doute que le terme de blanchité, de race ne sont pas mis en circulation, mais j'aurais tendance à dire que que la puissance effectives qu'ils contiennent est à l'œuvre et qu'il y a une prise de conscience même à travers la mauvaise foi, pour le dire comme ça, de leurs effets. Autrement dit, même si effectivement la race continue à être un terme dont il faut discuter les guillemets, la présence, l'absence, l'usage, les intentions derrière les usages, même si la blanchité semble être une espèce de langue étrange dont il va falloir effectivement développer le vocabulaire, la lexicographie et l'archéologie, même si ça reste à faire, il me semble que les effets tangibles de cette puissance d'agir qu'il y a dans ces deux termes et dans d'autres sont déjà à l'œuvre dans tout un ensemble de rapports dans lesquels nous sommes engagés. Et j'aurais tendance à dire, et c'est précisément cela qui est intéressant, c'est-à-dire que nous, ça ne se déploie pas devant nous, nous y sommes déjà. Nous sommes déjà dans les effets tangibles de la race et de la blanchité. Ça n'est pas un horizon qui se déploie devant nous, c'est quelque chose qui est déjà à l'œuvre. Et c'est pour ça que finalement, bon, que les termes se diffusent et qu'ils deviennent appropriés et appropriables par le plus grand nombre, c'est une chose. Mais il me semble que ce qui est encore plus important, c'est de prendre conscience de l'espace de lutte qu'ils déploient déjà, même s'ils ne sont pas encore explicités. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que par exemple, la discussion tout à l'heure portait sur est-ce qu'il faut dire blanchité ou blanchitude. Moi j'ai tendance à ne pas complètement jeter ou abandonner le terme de blanchitude, parce qu'il a un grand avantage, c'est qu'il montre qu'il y a une cause derrière tout ça. C'est dans ce sens que c'est entendu, c'est-à-dire le parallèle avec négritude appliquée à blanc, et donc le terme de blanchitude laisserait entendre qu'il y a bien une cause à défendre. Or, c'est précisément ce qui se passe. Il y a bien une cause blanche qui est en train d'être défendue. Et ce serait naïf de la part de ceux qui s'intéressent à ces questions-là de croire qu'elle n'est pas déjà, et pour le dire autrement, toujours déjà défendue. Les effets de la blanchité sont à l'œuvre. Et il y a bien quelque chose de l'ordre d'une blanchitude qui s'exprime là, c'est-à-dire d'une volonté, pas seulement d'adopter une posture, qui serait la posture blanche, vous savez, d'avoir une attitude, pour faire le parallèle, hein, c'est pas juste une assonance, c'est aussi une extension de l'espace à la fois sémantique et de l'espace d'expression de ce que c'est que la blanchité. Il n'y a pas seulement une attitude, il y a une véritable riposte qui est en train de se mettre en œuvre. Donc, bien sûr qu'il faut que nous puissions mettre en circulation ces termes avec toutes les variations, avec toutes les subtilités, les nuances que ça implique. Autrement dit, et là c'est un enjeu extrêmement important, c'est-à-dire que c'est toute l'ingéniosité, l'imagination dont sont capables ceux qui activent des espaces épistémologiques, ceux qui situent la pratique, celles et ceux qui situent la pratique de leur discours, les usages de leur discours, c'est qu'il va falloir mettre tout à disposition et pas simplement certains termes. Donc si on parle de blanchité, ça implique tout de suite que l'on parle de blanchitude, effectivement. Parce que c'est ainsi que, c'est sans doute dans ce rapport de force-là que les choses vont se jouer. Ça, c'est un premier aspect. L'autre qui me semble intéressant et qui concerne particulièrement la France, cette problématique de l'être blanc, hein, de l'ontologie blanche, c'est une problématique continentale aujourd'hui. C'est-à-dire, elle n'est pas propre à la France, elle n'est pas propre, elle est même transcontinentale. Et elle traverse effectivement les continents, et c'est précisément en les traversant qu'elle s'intensifie et qu'elle gagne en force et en puissance. Dans le contexte français, alors là je ferai juste un retour effectivement vers le garçon arabe, il y a un aspect qui me semble avoir été particulièrement puissant dans l'occultation de la blanchité, c'est l'orientalisme. C'est le fait d'être parvenu à entretenir l'illusion qu'au fond il n'y a pas de race en France parce qu'il y a une sorte de fascination, d'attraction pour une altérité qui n'est pas simplement détestable, mais qui est aussi désirable. Et je pense que ce passage par l'orientalisme, qui est un passage particulièrement fort dans le contexte français, parce qu'il est soutenu par des supports littéraires, iconographiques, il y a donc un imaginaire, il y a une attractivité et une fascination pour cet imaginaire, qui a pu, effectivement, pendant un certain temps, déjouer l'attention ou divertir de ce qui était essentiel, c'est qu'il y avait bien une racialité à l'œuvre là. Il y avait bien un travail de la race, à la fois sur elle-même et sur les autres qui s'opéraient. Sauf que cette intermédiation par l'orientalisme a en quelque sorte opéré comme une sorte d'amortisseur, qui a pu d'ailleurs, par exemple, amener à ce qu'on considère que les Arabes peuvent être objets du racisme, à peu près autant que objet du désir d'ailleurs, qui est une autre forme de racisme, dès lors qu'on est dans un rapport d'appropriation du corps de l'autre, à raison de la puissance de son désir, mais que les Arabes pouvaient aussi être racialisés. Et au fond, c'est parce qu'ils étaient orientalisés qu'on s'imaginait qu'ils n'étaient pas racialisés. Il me semble que là, il y a eu une espèce de... c'est bien pour ça que je parle d'amortisseur, c'est-à-dire un moment où on a ralenti en quelque sorte, où on a pu croire que la dynamique raciale était en quelque sorte différente dans le contexte français. Vous savez qu'il y a cette grande rhétorique qui consiste à dire en France les choses ne sont pas exactement comme ailleurs. Ça fait partie de la réitération de l'exception qui ne cesse de se reformuler, de s'entretenir et qui constitue, hein, je veux dire, un horizon pas seulement rhétorique mais politique en France. Hein, c'est véritablement, il y a une puissance politique de l'exception. Donc cette exception française, en fait, était entretenue par l'illusion que l'orientalisme, au fond, aurait en quelque sorte amorti ou atténué les effets de, à la fois de la race et de la racialisation et donc de l'expression du racisme. Or c'est précisément l'inverse qui s'est passé. L'orientalisme, on le sait. A été retourné en quelque sorte à l'envoyeur, dans ce sens où il est considéré effectivement à la fois dans ses modes d'énonciation et d'opération comme un des grands opérateurs justement de la racialisation. Mais sans doute sommes-nous précisément en train de sortir de cette parenthèse enchantée. C'est peut-être dur de lire comme ça, mais enfin ça a aussi fonctionné comme ça. Et du coup, le périmètre d'interaction me semble-t-il, est en train à la fois d'être peut-être plus explicite dans les termes du conflit tel qu'il s'énonce, mais aussi beaucoup plus violent dans les interactions. Alors, peut-être qu'il faut que je précise un peu ce que j'entends par là. Ce que je veux essayer de dire, c'est que je ne crois pas que nous soyons dans une phase où il suffit de nommer les choses pour que tout aille mieux. Je pense que c'est précisément là où tout devient extrêmement difficile et très compliqué. Autrement dit, plus les choses seront énoncées, et plus elles vont susciter de réactions violentes. Et alors, on peut le dire d'une manière encore plus précise, c'est-à-dire que plus il y aura des espaces universitaires, par exemple académiques, pour dire cela, plus il y aura des capacités de traduction des espaces universitaires vers les espaces de l'action militante, voire même de la traduction institutionnelle, et plus ce potentiel va s'accroître, et plus les choses seront, à mon avis, violentes. Parce que c'est précisément le moment où l'entité blanchité, hein, c'est-à-dire la puissance que constitue la blanchité, est mise en péril. Quand c'est le moment où, effectivement, la blanchitude va prendre toute sa puissance d'action, c'est-à-dire qu'elle va devenir une sorte d'arme de riposte extrêmement forte à l'égard de ce qui se passe. Donc, en fait, nous, à mon avis, nous sommes déjà dans cette phase et on peut déceler certains éléments qui sont très euphémisés, qui sont extrêmement propres sur eux, qui se présentent très bien, qui sont presque attractifs ou rassurants et qui procèdent précisément de cette tentative de riposte telle que nous la voyons se déployer. Alors, il y a un certain nombre de termes qui ont été évoqués. Alors, évidemment, le terme de diversité, sur lequel nous n'allons pas nous appesantir, n'est-ce pas, qui constitue une des premières diversions qui nous est opposée constamment. Donc, nous la laisserons de côté, puisque finalement, elle est assez facile à déjouer. Il y en a une autre qui est un peu plus délicate et qui, évidemment, va demander un peu plus de travail pour être désamorcée. C'est celle des discriminations. En fait, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle qu'on parle autant des discriminations. Alors, je passe sur le fait que la France, c'est une curiosité anthropologique pour nos amis étrangers et non francophones qui sont ici, c'est qu'en français, nous parvenons à utiliser le même terme pour désigner le mal et son remède. C'est-à-dire que les discriminations plurielles sont un fléau, et la discrimination positive au féminin singulier, on se demande bien pourquoi d'ailleurs, est la solution à tous les problèmes. Donc ça ne peut pas nous laisser indifférents. Cette espèce d'invention extrêmement judicieuse et très astucieuse, hein, on ne peut pas dire que ça n'a pas été réfléchi, mais qu'est-ce que ça entend qu'est-ce qu'on entend faire en pointant autant l'attention, le regard, voire même en mobilisant, bon, sans doute pas avec autant d'énergie que certains le voudraient, mais enfin avec une énergie quand même relativement honnête, les politiques publiques vers ces questions-là, en tout cas dans le contexte français, mais aussi dans le contexte européen. Je rappelle qu'il y a des directives européennes qui doivent être traduites, par exemple, dans le droit, dans les différents droits nationaux. Cette mobilisation des discriminations, à mon avis, pointe vers quelque chose, enfin, nous détourne de l'essentiel. Parce que ce vers quoi cela pointe, c'est un régime qui, lui, n'a pas vocation à être transformé radicalement et fondamentalement, qui est un régime que j'appellerais celui de l'égalité restreinte. C'est-à-dire d'une égalité qui n'a pas vocation à s'étendre à l'ensemble des collectifs qui prétendraient y accéder. Donc ce que les discriminations révèlent, et ce que la discrimination positive prétend corriger à la marge, ça n'est pas l'indignité du racisme, du sexisme, de l'homophobie, de l'islamophobie, à supposer qu'un jour ça devienne une catégorie de l'action publique, ça ne saurait tarder, ça sera une manière de complètement la désactiver. Enfin, tout ce qu'on voudra bien, effectivement, accumuler de ce point de vue-là, Il ne s'agit pas de ça, en fait. La finalité des politiques publiques de lutte contre les discriminations, ça n'est pas, même si très souvent, et ça n'est pas par hasard, elle s'érige sur un mode moralisant, hein, qui est la meilleure manière de dépolitiser une question, n'est-ce pas? C'est l'aborder d'un point de vue moral. En fait, ces politiques ont vocation à sécuriser le périmètre d'une égalité restreinte, d'une égalité réservée, qui effectivement constitue, comme on le disait tout à l'heure, du coup un privilège et non pas un droit. Comme on dit, l'égalité n'est pas un droit. Ça, c'est sans doute une proposition qui est difficile à démontrer dans sa complexité, mais que je soumets ici, parce qu'il me semble que c'est celle qui permet de comprendre pourquoi est-ce que la lutte contre les discriminations n'a absolument pas vocation à constituer un outil d'extension des droits. Il s'agit simplement d'opérer des corrections à la marge, d'opérer des formes de réparation à la fois symboliques, émotionnelles, sectorielles et intermittentes, pour le dire comme ça, c'est-à-dire qui n'ont pas vocation à se généraliser. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, on traite au cas par cas et on ne propose pas des règles générales. Donc toutes ces politiques ont vocation effectivement à maintenir ce périmètre qui est celui de l'égalité restreinte et qui a d'abord été conçu effectivement pour le groupe qui exerce une hégémonie sans partage, c'est-à-dire les hommes blancs hétérosexuels équipés notamment d'un patrimoine par exemple. Après, on peut décider de quoi il s'agit, est-ce que c'est un capital culturel, est-ce que c'est des propriétés financières ou autres. Donc c'est ce schéma-là qui permet, à mon avis, de comprendre pourquoi est-ce que la montée en intensité de la violence est devant nous et que de plus en plus il y aura une volonté, en quelque sorte, de limiter l'accès à tout un ensemble de biens et de propriétés et d'attributs qui, jusqu'à présent, sont réservés. Alors pourquoi est-ce que finalement la question serait celle de l'égalité et non pas celle de la liberté, par exemple? Je pense que la liberté, ça n'est qu'un surcroît par rapport. Autrement dit, la question de la liberté est toujours indexée sur celle de l'égalité. Alors peut-être, je ne sais pas comment expliquer ça de manière très claire, mais j'avoue que je perds un peu mes illusions quant à la valeur liberté, c'est-à-dire quant au principe de liberté, parce qu'il me semble qu'il est toujours soumis à un autre principe qui est celui de l'égalité restreinte, c'est-à-dire le fait de conserver ce cercle des égaux, qui est un cercle limité, qui se redéploie dans tout un ensemble de sphères sociales. Il n'y aurait pas qu'un groupe des égaux, il y en a une multiplicité qui, en général, recouvre d'ailleurs celui de la blanchité hétérosexuelle, dotée d'un certain nombre de moyens économiques et symboliques. Mais ce sont ces espaces-là qu'à chaque fois, il faut pouvoir préserver et qu'il faut pouvoir conserver en l'état. Donc toutes les extensions des droits sont toujours des concessions qui sont faites. Et non pas des reconnaissances qui sont en quelque sorte exercées. Donc, si on est sur le mode de la concession et non pas sur le mode de effectivement l'extension inconditionnelle, la question reste entière de savoir comment il est possible d'entretenir ce mode, qui est celui donc de droits réservés, qui de fait deviennent donc des privilèges. Ou des avantages indus. Je réfléchissais à ce que disait Horia Bokhamza tout à l'heure sur effectivement les termes. C'est vrai que le terme de privilège résonne ancien régime, quoique, enfin, les privilèges ne sont pas. Mais ce qui est sans doute vrai, c'est qu'on est là face à des avantages indus, c'est-à-dire des avantages qui effectivement ne peuvent en aucune manière être justifiés ni par le droit, ni par l'état des personnes, ni par l'action de ces personnes, ni par l'œuvre qu'elles assurent. Donc, si l'on veut bien admettre qu'effectivement il y a quelque chose de cet ordre-là qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui doit être préservé, c'est ce cercle restreint et les règles de sa restriction, dès lors, il est possible de peut-être mieux comprendre pourquoi est-ce que antisexisme et antiracisme ont été en quelque sorte convoqués sur la scène politique simultanément, et comment est-ce qu'ils sont devenus les outils prioritaires du maintien de cet ordre inégalitaire qui est celui de l'égalité restreinte. Alors je m'explique, ça voudrait dire que une des manières les plus immédiates, les plus simples et les plus opératoires de continuer à restreindre l'accès aux droits, c'est d'agir sur les deux dimensions ou plus qui sont facilement essentialisables, c'est-à-dire la race et le sexe. Donc, s'il est possible, effectivement, sans aucune difficulté, et nous le savons parce que nous passons notre vie à le faire, autrement dit, nous sommes les premiers opérateurs, quel que soit le niveau de conscience, on l'a vu tout à l'heure dans les exposés antérieurs, quel que soit le niveau de conscience dont nous nous équipons, dont nous nous dotons, sur lequel nous travaillons, nous sommes toujours amenés, effectivement, à réactiver des perceptions qui sont des perceptions à la fois racisées, pour le dire comme ça, ou qui procèdent de la race, et des perceptions qui procèdent du sexe ou du genre. Donc toutes ces activations constituent autant de mécanismes d'entretien de ce régime d'égalité restreinte. Et ce régime, précisément, est un régime qui a à la fois ses équipements, on pourrait dire institutionnels, politiques, mais qui a aussi tout un ensemble d'équipements rhétoriques, mythologiques. On parlait tout à l'heure de cosmologie. Il y a effectivement des cosmologies qui sont à l'œuvre dans le travail d'entretien de ces droits réservés. Donc, à ce point de la démonstration ou de ma tentative de réflexion au-delà du garçon arabe, pour le dire comme ça, je serais tentée, de réfléchir beaucoup plus aux mécanismes par lesquels l'essentialisation et les modalités de naturalisation à la fois des individus et des collectifs a de beaux jours devant elle, plutôt que à voir en quoi est-ce que la mobilisation d'un arsenal théorique, conceptuel, va permettre de venir à bout et d'atténuer ou d'affaiblir ou d'annihiler les effets justement de la blanchité et de son bras armé que serait la blanchitude. Au point où nous nous trouvons aujourd'hui, il me semble qu'on est plutôt du côté d'une forme de réactivation des processus d'essentialisation, plutôt que de voir se dessiner une orientation qui consisterait à être capable de déconstruire justement les mécanismes d'essentialisation. Alors je prendrai des exemples de différents pays européens. Et là, j'aimerais bien qu'on engage la discussion d'ailleurs sur ces exemples, parce qu'il me semble qu'à chaque fois, ils mobilisent quelque chose de ce type de mécanisme d'essentialisation, réservation de l'égalité. C'est à chaque fois comme ça que ça fonctionne, à mon avis. Alors, un des premiers exemples qui devient de plus en plus frappant dans le contexte européen, c'est celui de la généralisation de l'islamophobie. Or, pour qu'il y ait islamophobie, il faut, alors ça vous semblait un peu étrange de le formuler comme ça, il faut qu'il y ait islam. Or, l'islam requiert, pour exister à la fois dans l'espace public et dans un imaginaire partagé, requiert un travail relativement conséquent de la part de ses entrepreneurs. Autrement dit, il y a bien des entrepreneurs, à la fois moraux, politiques, idéologiques, qui ont contribué à faire advenir quelque chose que l'on pourrait appeler l'islam dans un contexte continental européen. L'islam, autrement dit, est beaucoup plus plastique qu'on ne veut nous le présenter. C'est-à-dire qu'en général, la présentation de l'islam, qui conduit d'ailleurs à l'islamophobie, c'est-à-dire à son rejet, est précisément essentialisée. C'est-à-dire qu'il est un attribut intrinsèque de certaines personnes, qui ne sont d'ailleurs même pas amenées à se prononcer sur le fait qu'elles seraient musulmanes ou pas, qu'elles auraient de l'islam en elles, pour le dire comme ça. Elles sont donc à la fois traversée et littéralement habitée par cette réalité-là. Donc c'est à raison d'un processus d'essentialisation maximale de cette réalité que serait l'islam, que l'on est parvenu en quelque sorte à ensuite pouvoir activer une forme de rejet systématique qui constitue aujourd'hui l'islamophobie. Donc qu'est-ce que ça nous dit de la réalité en fait des configurations de l'altérité dans le contexte européen? La première chose, c'est que l'altérité est très utile. Ça, nous le savions tous et toutes, puisque nous sommes à la fois nous et autres. Enfin bref, on ne va pas revenir sur la philosophie ou la phénoménologie de la subjectivation, n'est-ce pas? Nous avons besoin de ces deux entités au moins pour nous constituer. Mais ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que nous sommes dans une séquence européenne où l'altérité a vu surgir, en fait, parmi ces entrepreneurs, l'existence d'un gisement qui jusqu'alors était complètement inexploité et qui était celui de l'altérité religieuse. Je rappelle que ce n'est pas anodin que dans le contexte européen chrétien, l'altérité religieuse est de nouveau surgie dans l'espace public et que cela fasse suite à une séquence antérieure qui était une séquence hautement symbolique, qui était celle du judaïsme. C'est-à-dire que il y a à la fois une réitération et un renouvellement radical de ce qui peut se dire en termes d'altérité religieuse. Sachant, évidemment, je ne reviens pas là-dessus, le judaïsme, ça n'est pas juste une religion, vous le savez, c'est à la fois une culture, une identité, c'est un processus. Mais l'altérisation a raison d'une appartenance confessionnelle, l'épisode précédent, c'était le judaïsme, le nouvel épisode, c'est l'islam. Donc il est d'abord constitué comme une altérité radicale en termes religieux et comme ce que Gillian Lidjar rappelle, par exemple, la religion paradigmatique. C'est-à-dire la seule expression de la religiosité qui resterait dans l'espace européen. Toutes les autres ayant été en quelque sorte dissoutes par la sécularisation. Donc l'islam tel qu'il est construit, tel qu'il nous est présenté et proposé, est un islam qui est à la fois insoluble dans la sécularisation, c'est-à-dire qu'il ne parvient pas, qui résiste en quelque sorte au processus de sécularisation, qui est anhistorique. Vous aurez compris que je décris une fiction là, mais une fiction éminemment à la fois éloquente et active. Et donc aussi un islam fixé et massif, hein, c'est-à-dire un islam plein. Tellement plein qu'on ne peut rien y ajouter et qu'il ne peut rien recevoir de plus. Il a son dogme, il a ses usages, ses pratiques, ses principes, ses valeurs. Il est complètement saturé en quelque sorte. Et du coup, cet islam-là, non seulement il est insoluble, mais il est en quelque sorte indéfaisable. On ne peut pas le défaire. C'est à raison de cette construction qu'il devient possible, et en raison de son efficacité, évocatrice des images et et on pourrait dire des réminiscences qu'elle suscite, que l'islam devient un opérateur de racisme à travers justement la construction de l'islamophobie. Et nous nous trouvons au moment où en fait il va falloir faire raison en quelque sorte de cette construction européenne de l'islam qui ne traduit rien de la réalité de ce que serait des musulmans musulmanes, et qui ne traduit rien non plus de ce qu'est l'historicité de l'islam. Parce qu'il existe bien effectivement un islam qui est un objet à la fois théologique, politique, historique, culturel, travaillé par tout un ensemble de tensions, qui a sa propre généalogie. Tout cela n'existe pas dans le contexte de l'islamophobie. Tout ce qui existe, c'est effectivement cette entité qui a été complètement consolidée et unifiée à des fins de l'expression d'un racisme qui aujourd'hui effectivement devient un racisme quasi d'État. C'est-à-dire que l'islamophobie présente aussi cet avantage, c'est qu'elle est également partagée par tous les segments de la société. Vous avez aussi bien des personnes qui peuvent activer cette dimension-là pour des raisons de voisinage, d'expérience quotidienne, routinière. Et vous avez aujourd'hui des exemples beaucoup plus institutionnels, étatiques, officiels de cette expression de l'islamophobie. Donc nous ne sommes pas face à un phénomène sectoriel, pour le dire comme ça, ou nous ne sommes même pas face à un phénomène où il faudrait avoir une forme de compassion à l'égard des musulmans musulmanes, qui n'attendent rien de personne, pour le dire comme ça, ils n'ont pas besoin de la compassion de quiconque. Nous sommes face à un phénomène politique qui relève précisément de cette logique de l'activation d'un outil essentialisateur à des fins de maintien de logiques inégalitaires qui constituent un ordre systémique qui n'a pas vocation à se défaire lui-même. Donc pour cela, effectivement, il est plus important, et c'est sans doute comme ça que le mécanisme fonctionne, il faut réorienter le regard vers l'altérité et vers ses incarnations plutôt que de cesser de divertir en s'intéressant effectivement à ce qui constitue une forme de blanchité qui elle-même est en perpétuelle transformation. Ça, c'est un aspect qui mérite sans doute d'être discuté, qui pourrait l'être par la suite dans le débat. C'est que pas plus qu'il y a d'immuabilité de l'islam construit en vue d'activer l'islamophobie, il n'y a d'immuabilité de la blanchité. C'est aussi cela qui aujourd'hui nous amène à être extrêmement prudents sur ce qu'on entend par ça. C'est-à-dire, quels sont les activateurs, quels sont les principes actifs qui sont à l'œuvre là, et ce ne sont pas prioritairement ceux que l'on croit. C'est-à-dire que ce qui tient ensemble une expérience de la blanchité aujourd'hui, ça n'est pas prioritairement la race, par exemple, ça peut être la classe. C'est-à-dire des intérêts communs à défendre en matière de, effectivement, position hégémonique économique. Et ce serait effectivement réducteur que de rabattre la blanchité uniquement sur sa dimension raciale ou sur sa dimension genrée. La blanchité peut être extrêmement redoutable à saisir et d'une certaine manière à dénoncer ou simplement à tracer dès lors qu'elle va en quelque sorte être véhiculée par des mécanismes sociaux, par des tensions sociales. Et il serait possible de faire une lecture de tous les conflits qui ont agité les différentes sociétés européennes actuellement, y compris les indignés, qui est un non-conflit, hein, parce que pour le moment, on en est au stade du « va-t-il enfin se passer quelque chose ?» Enfin, c'est même pas sur le mode du feuilleton, hein, vous aurez compris, vous n'êtes pas en train de dire « et alors au prochain épisode ?» Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a une sorte d'étouffoir politique qui s'opère là, et qui en même temps pose la question de est-ce qu'on est politiquement efficace lorsqu'on est indigné. Je ne veux pas appeler des réponses, mais je suis un peu perplexe par rapport à la terminologie à l'œuvre en ce moment. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure pour faire avancer un certain nombre de causes. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la blanchitude, pour le coup, dans tout un ensemble de mouvements sociaux que nous avons vus se déployer au cours des derniers mois ou des dernières années dans le contexte européen. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des résistances qui ont à voir avec le démantèlement du système social, ce sont aussi des luttes qui ont à voir avec des dimensions identitaires qui constituaient des supports très forts pour un certain nombre de classes sociales, y compris dominées. Donc la dimension blanche où l'ingrédient blanc de certaines luttes n'est pas à négliger, y compris lorsque, effectivement, ça se traduit sous la forme de revendications que nous pourrions par ailleurs considérer comme parfaitement légitimes. Les retraites, par exemple, pour prendre le cas de la France, ou dans le cas de la Grèce, par exemple, le fait effectivement, de ne pas se voir dépecé, de ne pas voir une société être complètement dépecée par espèce de totalitarisme financier qui est en train de se mettre en place. Donc ça, c'est un exemple qui peut fonctionner à la fois dans le contexte français et puis dans un contexte plus vaste européen. J'en prendrai juste un deuxième avant de conclure, je crois que c'est ça, non ? Il me reste 5-6 minutes.
Voilà, exactement.
Okay. Donc j'en prendrai un deuxième qui a à voir avec la jonction improbable, mais néanmoins de plus en plus vraisemblable, entre homophobie et islamophobie. Alors, évidemment, l'idée, c'était qu'en général, les musulmans étaient islamophobes. Non, ils étaient quoi ? Non, ils étaient homophobes, n'est-ce pas ? Alors, est-ce qu'il ne faut pas véritablement prendre au sérieux cette proposition ? Pour voir comment elle est devenue recevable, à la fois dans un espace vertueux, hein, c'est-à-dire parce qu'il y a bien, il y a des gens extrêmement bien intentionnés qui le pensent, pour voir en quoi est-ce qu'effectivement, là encore, se niche en quelque sorte une forme d'opérateur de perpétuation des inégalités, et qui, du coup, assignerait à certains segments de la société le rôle de l'homophobie. Alors, j'avais essayé de déjouer cette tentation lorsque j'avais décrit l'idéal type du garçon arabe, en expliquant qu'il était à la fois considéré comme homophobe et objet de désir, donc du coup, il était quand même pris dans une situation, enfin, à supposer qu'il n'ait jamais existé sous cette forme, il y avait effectivement là une tension très forte qui lui était imposée. Mais il y a une autre dimension qu'il ne faut pas ignorer, qui consiste à, et qui me semble moins intéressante, qui consiste à prendre au sérieux la manière dont les sentiments de rejet et de haine se nourrissent mutuellement. Et là, je pense que nous sommes au moment où le caractère islamophobe des sociétés européennes s'est en quelque sorte nourri de l'illusion d'une homophobie qui ne serait que le fait de certains segments de la société et des segments les plus étrangers, les moins adaptés et les plus inadéquats dans les sociétés européennes. Donc ça revient effectivement à reprendre au sérieux le thème du colloque, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des formes d'islamophobie vertueuses dès lors qu'elles sont activées face à des collectifs ou des individus dont on considère qu'ils sont eux-mêmes animés par des sentiments de haine, par exemple l'homophobie. C'est une configuration qui est assez diffuse aujourd'hui en Europe et qui est extrêmement difficile à déjouer dans la mesure où on touche là à une contradiction fondamentale qui est celle, effectivement, à la fois de la hiérarchie des luttes, on l'évoquait tout à l'heure, mais aussi à la question de savoir comment il est possible, à un moment donné, de nouer des alliances, et comment est-ce que ces alliances peuvent être nouées. Or, l'islamophobie étant ce qu'elle est, il y a toute une partie des alliances aujourd'hui qui continue à être impossible ou improbable ou inconcevable. Je pense notamment, par exemple, à la manière dont le féminisme des jeunes femmes voilées est considéré comme une contradiction dans les termes, et que même lorsqu'il parvient à s'exprimer, à s'énoncer, à s'articuler, autrement dit, pas seulement verbalement, mais aussi dans les luttes, il fait l'objet de détournements, de réappropriations, à travers, par exemple, une espèce de version soft de ces luttes, effectivement, qui superposent ou qui prennent au sérieux l'intrication entre domination de race et domination de genre, et qui se traduisent, par exemple, parce qu'on a vu en Allemagne, sur les musulmanes l'islamisme ou l'islamité féministe, qui, en fait, se traduirait à travers une figure extrêmement attractive, érotisée, sexualisée, puisque la femme musulmane, finalement, elle est parfaitement acceptable dès lors qu'elle est nue dans les magazines allemands.
C'est une turque.
Donc, il y a bien là une espèce de torsion très intéressante de la manière dont on va utiliser l'islamophobie pour renforcer, en quelque sorte, l'homophobie, c'est-à-dire que, oui, nous sommes capables de sauver les femmes musulmanes, et qu'à voir. À partir du moment où vous êtes nu sur un magazine, c'est que c'est le début de la libération.
Toujours d'accord.
N'est-ce pas ? Et dès lors que, effectivement, cette conversion est possible, alors conversion au sens théocratique, hein, il s'agit bien de ça, il s'agit de convertir à un certain standard culturel, idéologique et du coup politique, dès lors que cette conversion est possible, elle démontre simultanément que l'islamophobie est légitime et qu'il y a bien effectivement un problème qui ultimement est celui de l'homophobie, c'est-à-dire de la haine de certaines orientations sexuelles. Et cette femme devient un alibi des deux côtés. C'est-à-dire qu'elle sert à la fois à renforcer un propos qui est celui effectivement de la dégradation ou de la disqualification des musulmans, et en même temps à renforcer les arguments des entrepreneurs et entrepreneuses qui prétendent montrer que l'homophobie est bien le propre des musulmans. Donc l'étape suivante, ce serait effectivement de montrer une lesbienne musulmane nue dans un magazine, peut-être que ce sera en France, pour démontrer que, effectivement, voilà, on peut dépasser les deux par simplement une espèce d'épiphanie. Hein, encore une fois, on est dans le registre du religieux, hein, d'une espèce de fascination pour la croyance dans la conversion possible. Et c'est ce type de figure qui, aujourd'hui, nous amène à être en quelque sorte interdit et parfois totalement démuni face à la manière de lutter simultanément contre islamophobie et homophobie. Nous nous trouvons au moment où le vocabulaire commun de ces deux formes de lutte doit être non seulement forgé, façonné, mais mis en circulation. Et nous sommes bien en peine de parvenir à expliquer, alors même si certains arrivent à peu près à comprendre, certaines parviennent à entrevoir de quoi ils retournent, dans la majeure partie des cas, il y a une incrédulité qui accueille l'idée que l'on pourrait en fait renvoyer les deux dispositifs comme étant équivalents, ou comme étant finalement les deux faces d'une même dynamique et d'une dynamique en fait d'entretien d'une altérité de l'intérieur, qu'il faut à tout prix annihiler, réduire et surtout domestiquer. Donc c'est cette question-là qui, aujourd'hui, me semble particulièrement révélée, qu'on est dans une phase de retour, en quelque sorte, ou de riposte violente à l'égard de la capacité à la fois à analyser les situations, à les nommer, à livrer un vocabulaire et une grammaire qui permettent de décrire ces situations-là, et que plus cette grammaire et ce vocabulaire seront éloquents et efficaces, et plus la riposte sera violente. Donc je ne voudrais pas finir sur une note pessimiste pour autant, puisque je suis convaincue que dès lors que l'on prend la mesure de l'ampleur d'un problème, on est déjà en capacité, en quelque sorte, à la fois de l'affronter et de commencer à y répondre. Mais je voudrais pas pour autant que l'on imagine que, en tout cas c'est pas du tout ma perspective, j'ai beaucoup de mal à concevoir aujourd'hui quel est le statut de la prise de parole dans tout ça. Alors je finirai juste là-dessus parce que ça peut effectivement aussi expliquer pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble pour parler. Ma conclusion ce serait que qui est une forme de questionnement, ce serait de m'interroger sur les raisons pour lesquelles, à un moment donné, on prend la parole. Pour dire quoi et à qui. Or, je pense qu'aujourd'hui, la grande difficulté face à laquelle on se trouve, c'est que les prises de parole ne sont pas forcément suivies d'une puissance d'agir, en quelque sorte. C'est-à-dire que la mécanique de la prise de parole ne se traduit pas forcément en une forme de puissance d'agir, et que pour que cela intervienne, il faut d'autres ingrédients, il faut d'autres formes de rapport de force à instaurer, et que les outils de ce rapport de force-là, aujourd'hui, restent à construire, ils restent à fabriquer. Autrement dit, ça n'est pas la prise de parole qui fait la puissance d'agir. La puissance d'agir, elle, réside aussi dans la capacité parfois à se taire, si je pouvais le dire comme ça. Et du coup, dans cette forme de restriction ou d'abnégation à ne pas prendre la parole, réside sans doute une nécessité, une urgence à trouver les modes d'action. Puisqu'en fait, la parole ne viendra pas divertir de l'action. Et j'en suis à un moment où je me pose vraiment la question de savoir... Alors certes, il faut ne pas être parlé par les autres. Ça, c'est un enjeu de lutte permanent, y compris par les autres très bien intentionnés. Enfin, surtout s'ils sont bien intentionnés, d'ailleurs. C'est là qu'il faut s'inquiéter. C'est absolument indispensable de garder ça, effectivement, à l'esprit. Mais je pense qu'il y a des formes d'abstention de la prise de parole qui méritent d'être méditées, y compris sur la portée qu'ils peuvent avoir. Autrement dit, est-ce que s'abstenir de parler, ça n'est parfois pas aussi une traduction de la puissance d'agir encore plus importante que le fait de prendre la parole ? Voilà. Du coup, j'arrête de parler.